Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à l'éducation, à la sexualité et à l'égalité filles-garçons. À l'ordre du jour ce soir, les politiques d'éducation peuvent-elles contrebalancer les stéréotypes? Le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, rendu la semaine dernière, note que loin de reculer, le sexisme pourrait s'ancrer, voire progresser en 2023 et 2024. Selon la présidente du Haut Conseil, Sylvie-Pierre Brossolette, l'inquiétude sur ce sexisme en progression porte plus spécifiquement sur les 25-34 ans. Mais quel rôle doit-on attribuer à l'école dans cette régression des discours et des actes d'égalité entre filles et garçons? L'application défaillante parfois de la loi quant à la prévention des préjugés sexistes et des violences faites aux femmes inscrites dans le code de l'éducation. Pourtant, a-t-elle une responsabilité dans ce maintien, voire cette augmentation des stéréotypes? La demande récente du Premier ministre d'une généralisation de l'encadrement à la vie affective, relationnelle et sexuelle peut-elle inverser la tendance? Ce sont les questions que nous poserons à nos trois invités. Yaël Amsalem-Bengui, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargée de recherche à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, l'INJEP, et vous êtes autrice, entre autres, des jeunes, la sexualité et Internet. Avec nous également, madame la rectrice de l'Académie de Montpellier, Sophie Desjans, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous avez travaillé justement sur ces questions d'égalité femmes-hommes, et puis en particulier dans votre rectorat à Montpellier, vous avez mis en place des politiques spécifiques autour de ce sujet. Marie Maranzana, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du bureau confédéral du planning familial et co-référente sur les questions de jeunesse et d'éducation à la sexualité.
De nos jours, il y a des personnes qui définissent la masculinité, comme moi je l'envisage, comme étant une espèce de masculinité toxique. Et dans notre société, je ne sais pas pourquoi, mais il y a vraiment un mouvement qui dit que, en gros, c'est OK d'être des hommes entre guillemets faibles. Et c'est ça que j'aime pas. C'est un truc qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux ces temps-ci.
Du coup, je reviens à ce que dit mon camarade. J'ai une copine et j'ai eu l'occasion, enfin on parle beaucoup, et j'ai eu l'occasion de lui en parler. Et je lui ai dit honnêtement, enfin moi je pense qu'aujourd'hui une femme recherche un homme fort. Ce que je veux dire c'est que un homme qui assume qui il est et qui prend des décisions. Je dis pas par exemple d'obliger la femme à faire quelque chose, mais on va lui poser une question à l'homme. La femme n'a pas forcément envie qu'on lui réponde, je ne sais pas. Ça, c'est, j'ai vraiment remarqué ça. Du coup, je lui en ai parlé et tout. Même si pour une femme, c'est dur d'assumer ça. Aujourd'hui, c'est la vérité. Les femmes veulent des hommes qui sont forts, qui peuvent, en quelque sorte, s'occuper d'elles. Même si on essaye de... Je trouve, en tout cas, aujourd'hui, on essaye un peu de cacher la réalité. Alors, je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça. Mais la majorité, en tout cas.
Un extrait de l'excellente série documentaire diffusée sur France Culture le 18 janvier, que vous pouvez retrouver évidemment sur le site de France Culture, « Être un bonhomme », une série de Romain de Bec-de-Lièvre réalisée par David Jacubovies. On entendait des étudiants de prépa au lycée Jacques de Cour à Paris. Vous souriez, Yaël Amsalem-Bengui, c'est parce que vous avez déjà entendu ça. Puis aussi, on peut penser qu'il peut y avoir une part de provocation quand on interroge ces jeunes garçons sur la question du rapport entre les filles et les garçons.
Alors, tout à fait, oui. Alors, d'une part, je souris parce que ils produisent des statistiques, la majorité, la minorité, tout ça, à partir d'expériences très personnelles. Donc, c'est toujours touchant quand on a l'impression qu'on représente à soi tout seul, dans une expérience, la majorité ou la minorité de sa génération.
Oui, en regardant les réseaux sociaux, on se dit, voilà c'est plus, ils sont plutôt comme ça, et moi, je suis pas comme ça.
C'est voilà,
ça.
Et puis moi, je représente et je connais ce que représente la jeunesse aujourd'hui. Non, je pense que ce qui est intéressant, c'est à la fois, ils savent très bien ce qu'attend le journaliste quand ils sont interrogés, donc ils s'inscrivent en faux. Ils connaissent, enfin voilà, il y a des biais de désirabilité sociale dans les propos des jeunes. Ils vont aussi provoquer pour voir la réaction, est-ce que ça va piquer, est-ce que ça va pas piquer. Et en même temps, ils vont tester d'avoir des propos qui sont aussi attendus par une partie de leur génération, mais aussi par une partie de l'ensemble des hommes et pas exclusivement de la jeunesse. Et donc, en ça, ils viennent s'inscrire aussi dans des rapports de genre qui vont transcender les rapports d'âge et qui vont se retrouver des hommes comme les autres et comme les 65 ans et plus qui sont interrogés dans le baromètre du HCE, par exemple. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est tout ça qui va se jouer dans leurs propos. C'est à la fois leur rapport au journaliste et donc à un adulte, même si le journaliste n'est pas forcément très vieux par rapport à eux, il est quand même par son métier, considéré comme un adulte de leur point de vue. Parmi les hommes, ils répondent à un homme a priori et donc à performer finalement leur genre.
Et pour vous, Marie et Maranzana, vous faites beaucoup d'interventions justement en collège, en lycée, autour de ces questions d'égalité entre garçons et filles, est-ce que cette parole vous surprend ou au contraire vous paraît soit une provocation, soit dans la norme de ce que vous entendez quand vous faites vos interventions.
Alors non, ça me surprend pas. C'est alors ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les séances d'éducation à la sexualité sont différentes. On a des groupes qui sont différents, plus ou moins dynamiques, qui s'expriment plus ou moins sur certains sujets. Mais sur la question des émotions, sur la question de ce que doit être un vrai homme, c'est des choses qui ont tendance à susciter des réactions, que ce soit de la part des garçons qui vont s'inscrire dans ce qui a pu être dit dans cet extrait de documentaire, ou de la part des filles qui vont au contraire parfois dire « Ah mais non, ça c'est faux, les garçons ils ont le droit aussi d'avoir des émotions, c'est pas forcément ce qu'on attend d'eux », et puis des garçons également qui ne se reconnaissent pas dans ces injonctions-là. Et donc c'est ça qui est tout l'intérêt des séances d'éducation à la sexualité, c'est qu'il y ait ces discussions qui puissent émerger entre les élèves, les enfants, les jeunes, et que ensuite, ça leur permette de se rendre compte que peut-être leur expérience individuelle, personnelle, n'est pas celle de leurs camarades. Et de ensuite, nous, en tant qu'animateurs, animatrices, on est capable de leur faire comprendre que oui, c'est parce qu'il y a aussi des injonctions. Et ensuite, c'est à eux de choisir ce qu'ils en font de ces injonctions.
Sophie Béjean, madame la rectrice, quand on est à la tête d'une grande académie comme celle de Montpellier et qu'on a fait un rapport portant sur l'égalité filles-garçons pour le ministère de l'Éducation, c'était en 2021, est-ce que justement on a une vision claire de tout cela? C'est-à-dire on comprend bien que les chercheuses ou les chercheurs de terrain, ceux qui descendent au plus bas niveau auprès des classes ou auprès des jeunes, disent attention parce qu'il y a de la provocation, il y a la possibilité de biais statistiques, mais vous êtes donc souvent contrainte de partir de ces statistiques pour pouvoir mettre en place des politiques justement d'égalité.
Oui, alors on a une vision claire et puis une vision de la complexité aussi de ces questions et de l'impact de certains stéréotypes filles-garçons et des rapports aussi entre filles et garçons, des rapports de genre dans les établissements scolaires. On le voit en termes d'impact sur ce qu'on appelle l'effet établissement, c'est-à-dire tous les événements qui se passent dans l'établissement, qui peuvent être des violences, qui peuvent être des propos sexistes, qui peuvent être des propos discriminatoires. On le voit aussi sur l'impact sur la scolarité, en fait, des élèves. Alors, c'est vraiment sous ce prisme-là, peut-être, que j'ai développé une expertise qui a conduit à ce rapport-là que vous avez cité, que j'avais remis au ministre, sur le parcours d'orientation des élèves. Mais par exemple, si on est dans l'écho de ce témoignage des jeunes élèves lycéens, on se rend compte dans l'impact sur leur parcours de scolarité, c'est qu'en fait la scolarité des filles et des garçons n'est pas la même. Bien sûr, si on croise avec les indicateurs sociaux, on apporte un peu plus de finesse dans l'analyse. Mais tout au long du parcours scolaire, les garçons, on performe moins, si je puis dire, je mets des guillemets, que les filles. C'est-à-dire les filles ont des meilleurs résultats scolaires, elles ont des meilleurs résultats au brevet des collèges, elles ont moins de retard à l'entrée d'ailleurs en sixième, elles ont des meilleurs résultats au baccalauréat. Et pour autant, leur parcours, leur choix de discipline, les matières dans lesquelles elles ont des bons résultats sont différents. Et sont différents, c'est-à-dire que les disciplines des humanités, les disciplines littéraires sont des disciplines où elles sont très bonnes et où les garçons sont moins présents. Ils choisissent moins ces disciplines. Et puis, en mathématiques, par exemple, dès l'entrée dans la scolarité, entre le CP et le CE1, les filles à l'entrée du CP et les garçons ont exactement les mêmes résultats scolaires, mais dès le CE1, ils ont des résultats différents.
Ce qui nous a donné envie de faire cette émission, Yael Salim-Mingui, c'est évidemment ce rapport du Haut Conseil, paru la semaine dernière, qui était, alors, en tout cas, sa présidente le présentait comme un peu alarmant, puisqu'il y avait cette tranche d'âge entre 25 et 35 ans qui était marquée par des propos d'un sexisme plus outrancier que peut-être auparavant. Est-ce que cela, vous le pensez, vous le voyez, vous le concevez dans les enquêtes que vous menez en tant que sociologue et chargé de recherche, ou est-ce qu'au bout du compte, il faut aussi nuancer ce caractère un peu statistique d'une telle enquête?
Alors, un peu les deux, c'est-à-dire qu'il faut nuancer dans la mesure où il faudrait faire une enquête exclusivement sur le sexisme et le rapport au sexisme et qu'est-ce que c'est un propos sexiste, et avoir le temps. Les baromètres, comme ce qu'a pu faire, enfin ce que fait régulièrement le HCE, qui
sont précieux. Oui, parce que ça n'est pas la première fois qu'il y a ce baromètre.
Voilà, c'est ça. Mais en même temps, c'est beaucoup, beaucoup de questions qui s'enchaînent, qui n'ont pas forcément exclusivement des liens entre elles. voilà, il faudrait faire une enquête en propre pour vraiment tester et tester en population générale quelque chose de robuste. Malgré tout, ça dit des choses. Et ce que ça dit d'une part, c'est qu'on est d'abord dans une société où les propos sexistes ont une place légitime. D'abord, on va dire de manière générale, sur les réseaux sociaux comme dans l'espace médiatique. Et ça, moi, je dirais que, on va dire, ça date du mariage pour tous et de 2012. Il y a eu un avant et un après où, d'un seul coup, les propos sexistes, homophobes, enfin, LGBT-phobes ont eu place publique et ont été rendus légitimes. Et donc, ont aussi laissé de la place à des propos assez conservateurs sur les rapports hommes-femmes dans la société. Et donc, bah, tous ces 25-35 ans qui sont interrogés dans le baromètre sont aussi des jeunes qui ont grandi avec ces propos-là. Et donc, ils vont s'inscrire finalement dans une société qui va adhérer à ces valeurs. Et il y a quelque part, parfois, une vision un peu, je sais pas, idéale ou bucolique de la jeunesse qui laisserait croire qu'elle serait toujours progressiste. Mais dans toutes les enquêtes sur les valeurs, et notamment les enquêtes sur les valeurs des jeunes européens, on voit bien qu'il y a une partie des jeunes qui a des idées très conservatrices dans l'ensemble des sociétés européennes. Donc, quelque part, on va les retrouver aussi sur les propos sexistes, et c'est pas très étonnant, au même titre que le reste de la population.
Et quand vous vous retrouvez face à des classes, Marie et Maranzana, justement, où vous faites cette éducation à la sexualité en tant que membre du bureau confédéral du planning familial, comment vous débrouillez-vous et comment percevez-vous, peut-être même comme une sorte de baromètre, ces changements d'attitude, ces évolutions que peuvent avoir les jeunes des classes que vous rencontrez?
Alors pour le coup, sur la question de est-ce qu'on a raison de s'alarmer davantage aujourd'hui qu'il y a quelques années, je ne suis pas certaine. En tout cas, moi, dans ce que j'ai pu voir, que ce soit en animation scolaire, mais aussi dans d'autres lieux, hein, comme les stands de prévention dans l'espace public qu'on peut faire parfois, les jeunes qu'on rencontre, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose, en tout cas dans ma perception, quelque chose de l'ordre d'une future génération qui sera beaucoup plus sexiste que la précédente. Et je pense aussi que, bon, comme le disait Yaël, hein, le baromètre du HCE est un outil très intéressant qui...
Oui, parce qu'il revient régulièrement, voilà, et donc à partir de ce moment-là, on peut voir des évolutions.
Exactement, ça dépeint une certaine image, mais si on prend d'autres résultats de ce rapport du HCE, on constate aussi que le conservatisme reste très prégnant chez au niveau des stéréotypes de genre, hein, j'entends, reste très prégnant chez les générations plus âgées. Et du coup, je ne pense pas que ce soit forcément intéressant de stigmatiser les jeunes sur ces paroles-là. Et pour le coup, il y a aussi des jeunes dont il faut prendre en compte la parole et valoriser ce qu'ils ont à dire, parce qu'il y a des choses très, très intéressantes au niveau de la lutte contre le sexisme.
Oui, alors justement, Sophie Béjean, comment, c'est la question qu'on pose tout le temps lorsqu'on s'intéresse à l'école, c'est la porosité des murs des écoles, des lycées, des collèges, à ce qui se passe à l'extérieur, évidemment, la question des réseaux sociaux, on l'a déjà mentionné, mais aussi les propos familiaux qu'on peut tenir dans les familles et d'une certaine manière, la capacité de l'école à contrebalancer justement ces stéréotypes tels qu'ils peuvent être émis dans d'autres espaces que l'espace scolaire.
Oui, c'est une mobilisation générale d'une certaine manière, puis aussi une mobilisation un peu systémique. Et pour cibler spécifiquement l'égalité filles-garçons et les stéréotypes de genre, dans mon académie, j'ai mis en place toute une organisation. On a un comité de pilotage, on mobilise l'ensemble des acteurs, les infirmières scolaires, les conseillers principaux d'éducation, les équipes de vie scolaire, les acteurs qui sont aussi du côté des assistantes sociales, qui sont dans les établissements, ou des professeurs, par exemple les professeurs de SVT, pour que dans chaque établissement, on ait un plan d'action au fond, et plan d'action qui implique les élèves, parce que impliquer les élèves, c'est un des meilleurs moyens finalement.
Qu'est-ce de leur faire prendre conscience. Qu'est-ce que ça veut dire impliquer les élèves alors,
par exemple, dans les conseils de vie collégienne ou dans les conseils de vie lycéenne ou à travers des projets éducatifs dans mon académie, dans chaque établissement, il y a un référent égalité filles-garçons, par exemple. Dans les projets éducatifs qui sont portés, quand les élèves s'emparent de certains sujets, que ce soit le harcèlement, et parfois c'est lié à du sexisme, quand c'est d'autres questions liées à l'égalité filles-garçons, en fait, les élèves sont très motivés, très intéressés. Moi, j'ai été marquée, et plutôt, finalement, ça m'a rendue un peu plus optimiste, quand j'ai vu que les élèves de l'académie avaient choisi comme thème, il y a 2 ans,
le
thème...
Ouais. Pardon ? Montpellier, rappelons que c'est
À Montpellier, avait choisi le thème, les élèves du conseil académique de la vie lycéenne ont choisi le thème des règles pour considérer que ça ne devait plus être un tabou. Alors, bon, très bien. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que ce sont les garçons qui en parlaient, qui avaient construit toute une journée de travail, de débat, de rencontres, qui ont prôné la distribution de distributeurs, de la mise en place de distributeurs de protection périodique. Enfin, voilà, quand les garçons s'emparent de ça et qu'ils le font en plus avec les filles, on dépasse des tabous et puis finalement, ça rend un peu optimiste. Il n'empêche que la réalité elle est plus complexe et que cette mobilisation, moi, elle m'a amené à choisir d'avoir deux semaines égalité dans l'année, une au mois d'octobre, une au mois de mars, donc une qui est plus centrée sur les choix d'orientation et l'autre plus centrée sur les valeurs, sur l'égalité, sur la mobilisation des élèves et puis aussi de tous les acteurs de la communauté éducative.
Même question, Yael Amsalem-Mingui, vous avez travaillé effectivement sur l'école, mais en dehors de l'école aussi. Et comment peut-on, enfin, quel rôle peut-on accorder à la question scolaire dans cet apprentissage ou cette capacité à contrebattre les stéréotypes?
Alors, moi, dans les enquêtes que j'ai pu faire, on voit, du point de vue des jeunes, que l'école peut produire un discours, peut contrebalancer des normes qui sont diffusées par les groupes de pères ou par, les membres de la structure familiale. Mmh. Mais l'école peut pas tout faire. Et les jeunes en sont bien conscients. Ils rendent, et pour moi ça c'était un des grands résultats quand on avait travaillé sur le consentement dans les séances d'éducation à la sexualité, c'était de voir combien les jeunes rendent l'école légitime pour s'emparer des questions relationnelles, sexuelles, de sexualité, de lutte contre le sexisme, d'égalité. C'est une institution qui leur semble complètement légitime avec du cadre qui leur semble, et voilà, ils construisent le cadre très bien, au même titre que les adultes, hein, on parlera pas des pratiques sexuelles et tout le monde est d'accord là-dessus. Mais l'école est légitime et l'école est aussi un lieu de débat. Et c'est d'ailleurs ça qu'ils viennent chercher dans tous ces moments-là. C'est du débat qui est pas forcément facile à avoir avec son groupe de pères, quitte à pousser dans les retranchements.
Quand vous dites groupe de pères, c'est pas IRS?
Oui, non, pas dans les pères, pas dans les papas.
Pas les papas, voilà.
Non, c'est voilà. Mais y compris pas dans les structures familiales. C'est-à-dire que tous les débats qu'on peut avoir à l'école, ils viennent soit confirmer, des repères normatifs qui sont aussi basés sur l'égalité qu'on peut avoir dans d'autres relations en dehors de l'école, ou au contraire contrebalancer et amener les jeunes à se poser des questions. Et c'est bien là le rôle de l'école dans leur point de vue et dans ce qu'on peut voir dans les enquêtes, c'est combien l'école elle est productrice de se poser des questions et d'interpeller, donc de là de créer des citoyens, de construire, de participer à la construction de la citoyenneté.
Oui, et c'est vrai que ce que vous disiez les unes et les autres tout à l'heure, à savoir que il y avait aussi dans la société pas simplement ce discours d'un retour au masculinisme, etc., qui était le propre même de cette série documentaire, entre autres de Romain Debecq-Delièvre et de David Jacubovies, mais qu'il y avait aussi tout un discours justement sur le genre, sur la capacité à surmonter justement les stéréotypes de genre, et que cela, ça participait aussi peut-être des vraies discussions que vous pouvez avoir, Marie Maranzana, avec les élèves qui sont en face de vous en tant que planning familial.
Oui, tout à fait. Enfin, pour rebondir sur ce que disait Yael aussi, l'école, c'est un lieu où circulent des discours, des représentations, mais c'est aussi un lieu où on a cette possibilité d'avoir des informations. Et justement, les élèves sont très preneurs et sont très demandeurs de ces informations sur la vie affective, la sexualité, les questions d'égalité, de genre. Et donc, c'est lors de ces séances qu'on peut réellement discuter, transmettre ces informations-là, transmettre aussi entre pères, hein, comme on disait, pas les papas, les pères entre camarades. Et pour moi, c'est vraiment dans ces moments-là qu'on peut passer parfois de discours très caricaturaux, comme on a pu l'entendre, un peu de discours de réaction.
De réaffirmation.
De réaffirmation très, très ancrée dans les stéréotypes de genre. Et on passe à quelque chose de plus nuancé parce qu'ils auront eu d'autres informations, ils auront eu des débats entre eux. Et c'est ça aussi tout l'intérêt du cadre scolaire pour faire ça.
Sophie Béjean, on disait qu'effectivement l'école n'est jamais séparée du milieu qui l'entoure. Est-ce que si ça ne vient pas, ces réticences à l'égalité, si ça ne vient pas des élèves eux-mêmes, ça peut venir aussi peut-être des familles. On sait effectivement qu'il y a des difficultés à mettre en œuvre souvent ce qui est obligatoire, théoriquement, ces formations régulières, une fois dans l'année scolaire, quel que soit le niveau, sur la question de la sexualité en particulier, et puis des relations filles-garçons, et qu'on ne les met pas en œuvre parfois. Et qu'est-ce qui empêche que ça soit mis en œuvre?
Alors, d'abord, c'est pas une fois par an, et heureusement.
C'est trois fois dans.
C'est vraiment l'éducation à la sexualité qui doit être faite à tout âge, tout au long de la scolarité, et bien sûr adaptée à l'âge des enfants, des élèves, des adolescents.
On le fait d'ailleurs beaucoup. C'est trois séances d'éducation tout au long de la scolarité, c'est ça?
Alors, on le fait beaucoup en partenariat, hein, par exemple avec le planning familial, mais aussi avec d'autres associations. Mais surtout, on forme maintenant, et heureusement, alors nos infirmières scolaires, nos professeurs de SVT notamment, qui sont les premiers interlocuteurs, interlocutrices de nos élèves, mais pas seulement, pour que cette question-là, elle soit abordée justement, pas seulement sur la question de la reproduction, faut comprendre comment ça marche, bien sûr, mais aussi sous l'angle des relations entre filles et garçons, des relations affectives, des relations amoureuses, parce que plus ils grandissent, évidemment, plus ces questions-là les intéressent. On les forme aussi à l'usage des réseaux sociaux et même d'Internet, parce que peut-être une des choses qui est importante, c'est l'accès à une multitude d'informations très libres sur Internet qui peut avoir un impact aux images pornographiques notamment. Et donc, apprendre les élèves à prendre cette distance aussi avec ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, ce qu'ils voient sur Internet, ça relève de l'éducation média à l'information. Et pour nous, c'est une priorité aussi. Et là encore, on forme nos équipes pour le faire. On leur donne des ressources. On anime notre collectif, au fond, de la communauté éducative pour qu'elle puisse mieux répondre aux attentes des élèves en la matière.
Le Premier ministre a annoncé dans son discours de politique générale une augmentation, une prime pour les infirmières scolaires. Ça participe aussi de cela parce qu'elles ont un rôle important, les infirmiers ou infirmières scolaires ont un rôle important dans la communauté éducative autour de ces questions.
Elles ont un rôle essentiel, et pas seulement sur ces questions de santé ou de sexualité, mais de santé mentale aussi. Ce sont des relais essentiels dans la communauté éducative, et cette reconnaissance est très bienvenue.
Yael Amsalem Mangui, vous vouliez rajouter quelque chose à propos de ce que disait Sophie Béjean?
Oui, alors je disais, ce que vous avez dit, c'est tout à fait, ce qu'on va retrouver dans les enquêtes, et notamment sur la dimension relationnelle et le caractère pluridisciplinaire, en fait, d'approcher la question de la sexualité, pas du tout comme des pratiques sexuelles, mais vraiment dans une dynamique de relation, d'abord amicale, puis éventuellement amoureuse, éventuellement sentimentale, en ligne, hors ligne, avec tous les âges, et forcément adapté à l'âge, au niveau, au contexte, est-ce qu'on est dans un collège, lycée, est-ce qu'on est que dans un collège, avec la question de la désinformation et des fake news sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas que une porte ouverte à la pornographie, mais aussi à de la désinformation sur l'accès et les conditions d'accès à l'IVG, par exemple, qui ne sont pas évidents et qui vont être notamment pas mal alimenté par des algorithmes qui viennent tous se compléter. Et donc, on va après refermer une bulle qui, oui, si elle est ouverte complètement, va se refermer parce qu'on a déjà regardé tel ou tel compte. Et donc, en ça, l'éducation à la sexualité trouve sa place dans une perspective pluridisciplinaire. Et c'est ça qui va faire aussi qu'elle va elle va sortir de la dimension exclusivement biologique, tout en appartenant en partie au programme de SVT sur la dimension de la reproduction, mais n'est pas exclusive. Et donc là, tous les enseignants peuvent s'emparer de ces questions-là.
Vous écoutez Le Temps du Débat, 18h43 sur France Culture. Égalité femmes-hommes, les politiques d'éducation peuvent-elles contrebalancer les stéréotypes? C'est la question que nous posons à Yael Amsalem Mangui. Vous venez de l'entendre à l'échange de recherche à l'INJEP, l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire, à Sophie Béjean, qui est rectrice de l'Académie de Montpellier, et à Marie Maranzana, qui est membre du planning familial, qui est co-référente sur les questions de jeunesse et d'éducation à la sexualité.
Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard dans la vie, comme métier?
Péricultrice.
Et si tu avais été un garçon, qu'est-ce que tu aurais aimé faire comme métier?
Inspecteur.
Inspecteur de quoi?
Police.
Inspecteur de police? Pardon. Et tu penses que tu veux pas être inspectrice de police en tant que fille?
Non.
Pourquoi?
Ça existe pas, ça.
Ça existe pas, tu crois?
Oui.
Ah, il y a des femmes dans la police.
Oui, mais c'est des secrétaires.
Je veux être policier.
Ah ouais?
Pour griller les choses.
Ah bon, parce que tu crois que policier, c'est encore le droit de griller les choses.
Moi, je vais chasseur de primes.
Moi, je vais être footballeur.
Ah oui?
Moi, vétérinaire. Ou alors négociant de bestiaux. Négociant de bestiaux.
Ah bon? Négociant de bestiaux, pourquoi?
Ça gagne beaucoup.
Ah oui? Si vous aviez été des filles, qu'est-ce que vous auriez fait comme métier?
Oh, moi, j'aurais été péricultrice.
France Culture, Le Temps du Débat. Emmanuel Laurentin.
des réponses presque queer, pourrait-on dire, hein, ce reportage de France 3, Les Jouets de l'Homme, c'était en 1976, il y a presque 50 ans de cela. Le planning familial, je crois que vous avez voulu faire pression sur le gouvernement en insistant justement sur, disons, ces heures d'enseignement qui n'étaient pas faites partout, au même rythme et dans tous les établissements. C'est une pression amicale, pourrait-on dire, ça n'est pas, puisque vous participez aussi aux travaux d'éducation en étant dans les établissements. Mais néanmoins, c'est une pression parce que vous pensez qu'il est nécessaire d'affirmer la présence de ces questions d'égalité femmes-hommes et de sexualité dans les établissements, même là où ça n'a pas été fait.
Oui, tout à fait. Alors, c'est une pression qu'on pourrait qualifier de constructive dans le sens où, voilà, depuis 2001, on a quand même cette loi qui est très, très bien faite, qui est on a de la chance d'avoir cette loi en France. Hein. D'autres pays n'ont pas cette chance d'avoir une loi aussi complète. Mais elle n'est pas appliquée vraiment de très loin. C'est-à-dire que là, des derniers chiffres qu'on peut avoir, on a moins de 15% des élèves d'école et de lycée qui ont ces trois séances annuelles par niveau par an. Et on a moins de 20% au niveau du collège. Donc c'est vraiment, on en est encore loin du compte. Et c'est pour ça que on a souhaité faire ce contentieux devant le tribunal administratif pour mettre l'État face à ses responsabilités et pour médiatiser cette question, hein, pour vraiment faire la lumière dessus et essayer d'aller vers quelque chose où on a enfin des moyens humains, financiers pour mettre en place une véritable politique avec un pilotage, une gouvernance sur cette question et une vraie stratégie nationale, parce que pour l'instant ce n'est pas le cas et c'est beaucoup la bonne volonté des chefs d'établissement plus ou moins pour mettre en place ces séances d'éducation à la sexualité qui joue là.
Je ne suis pas sûr que Sophie Béjean soit tout à fait d'accord avec vous en tant que rectrice de l'Académie de Montpellier.
Je pense qu'il y a une vraie conscience de notre ministère, hein, et de nos ministres successifs d'ailleurs, hein, de cette question-là, et puis de l'ensemble des cadres
de
l'éducation nationale.
L'ancien ministre est maintenant Premier ministre. Donc...
Et il y a eu un rapport de l'inspection générale qui a montré qu'effectivement les séances d'éducation à la sexualité étaient mal faites ou pas visibles ou pas mesurables aussi, parce que dans certains établissements où on sait qu'elles ont lieu, puisque les enseignants ou les équipes de vie scolaire ou les infirmières les tiennent ces séances et où les partenaires interviennent, et pour autant les élèves ont le sentiment qu'ils n'ont pas eu ces séances. Alors, il n'empêche qu'il faut un plan d'action, c'est ce que nous avons dans l'Académie, un plan de formation, comme je le disais tout à l'heure, et puis une observation. Par exemple, j'ai souhaité, avec notre référente égalité filles-garçons, mettre en place un observatoire des violences de genre. Donc c'est aussi pour être en capacité de suivre et de diagnostiquer, de voir les évolutions de ces situations. Mais si vous vous permettez, je voulais revenir sur les témoignages qu'on a entendus. Alors, 76, hein, je crois que vous avez
dit. Ça fait 50 ans, presque.
Ça fait 50 ans. Malheureusement, c'est encore une réalité.
C'est pour la question des représentations des travail à la sortie de l'école.
Des disciplines, des matières et des emplois que les élèves se font, que les enfants, les jeunes, les adolescents se font de leur avenir. Et vous voyez, je vais vous donner juste un ou deux chiffres. Dans la voie professionnelle, la filière santé sociale, il y a 86% de filles. Et dans la filière mécanique, il y a 5% de filles. Et si je prends des disciplines de la voie générale, on va retrouver aussi des écarts entre les disciplines littéraires, langue, humanité, et puis les disciplines plutôt scientifiques, NSI, numérique, sciences de l'ingénieur.
Et ça pourrait être d'une certaine manière une sorte de pierre dans le jardin de l'éducation ou de l'enseignement, c'est-à-dire de se dire, on sait ce qu'il en est pour la question de l'antisémitisme et de l'enseignement de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme dans les établissements, malgré des cours malgré des cours à peu près à chaque niveau autour de la Shoah, on a encore des réticences et on a même des oppositions à ces questions-là et la croissance parfois de l'antisémitisme. Donc la question de l'efficacité de ces, de ces disciplines et de cette façon d'enseigner pour pouvoir faire changer les mentalités, puisque vous nous dites que sur la question des orientations de travail, ça n'a pas beaucoup bougé d'une certaine manière.
Non, ça n'a pas beaucoup bougé, mais il n'y a pas non plus eu des plans d'action véritablement structurés. et volontariste. C'était le cas de notre rapport en 2021, hein, c'était de proposer un plan d'action et puis quelque chose d'assez systémique avec la mise en place, par exemple, d'un label des établissements scolaires, un label égalité filles-garçons.
550 qui ont été labellisés.
550 au niveau national, 33 dans mon académie. C'est systémique, c'est-à-dire que ça mobilise un petit peu tous les leviers d'action. Mais je veux donner un exemple. La filière NSI qui est numérique sciences informatiques, où on a très peu de filles. Depuis qu'on a mis en place un plan d'action dans mon académie, en 3 ans, il y a eu plus 40% de filles qui ont pris cette filière-là en première, et plus 79% en terminale. Alors malheureusement, on n'est encore qu'à 18%
des élèves. Oui, parce qu'on part de très bas.
Qui sont des filles, ouais. Mais ça progresse. Mmh. C'est-à-dire que quand on agit, quand on se donne des objectifs cibles, c'est pas des quotas, mais des objectifs cibles, et quand on met en place les leviers d'action avec des partenaires, on arrive à faire bouger les lignes, mais on peut pas le faire seul.
Yael Salen-Mingui, d'autres choses par rapport à la question de la sexualité, c'est qu'effectivement, entre 1976 et aujourd'hui, il y a bien des choses qui ont changé. Il y a effectivement eu des libéralisations qui se sont déroulées dans la façon d'être en couple, par exemple. La question du mariage homosexuel existe, ça n'était pas le cas en 1976. La question de la transidentité est très active aujourd'hui dans la société française, et donc ça veut dire qu'il faut toujours faire évoluer les modèles dans ses capacités d'enseignement, justement, et peut-être aussi les réticences qu'il peut y avoir de l'autre côté, de la part de familles qui sont bousculées par leur vision propre de ces questions de genre.
Oui, mais dans les observations qu'on peut faire, l'espace du cadre scolaire est un espace de débat et de discussion. C'est pas vraiment tant que ça un espace de production normative.
Ah non, c'est pas ça.
Mais du coup, voilà. Du coup, à ce niveau-là, ça bouge tout le temps et ça va bouger sans arrêt. Il va se passer quelque chose. Ça peut être sur la dernière émission de télé-réalité ou sur la dernière loi qui vient de passer ou sur le débat sur est-ce qu'il faut constitutionnaliser ou pas le droit à l'IVG, qui peut être évoqué dans des débats. Et ce que je trouve intéressant, et c'est là où ça rejoint la question d'orientation scolaire, du sexisme, mais aussi d'éducation à la sexualité, c'est que dans ces séances, en fait, d'éducation à la sexualité, se rejouent tous ces travaux-là, se rejouent tous ces débats-là, où les jeunes vont parler de, finalement, c'est quoi être un garçon, qu'est-ce qu'on attend d'être un garçon, est-ce qu'il y a des métiers de garçon, est-ce qu'il y a des métiers de fille, et c'est quoi être une vraie fille, et c'est quoi être, mais est-ce qu'on doit choisir d'être une vraie fille ou d'être un vrai garçon, et tout ça. Et donc, dans tous ces débats-là, on va voir combien les jeunes, alors à chaque fois en fonction de leur âge et tout ça, vont débattre à la fois des rapports de genre, vont mettre en question entre eux et avec un intervenant ou une intervenante le sexisme, vont choper des informations entre eux sur ce qui se fait et ce qui se fait pas, et c'est notamment ce qui sert dans un groupe de jeunes, c'est de voir comment les autres vont réagir pour capter, tiens, dans ce groupe-là, ça ne se fait pas. Dans ce groupe-là, ça se fait.
Je voyais un reportage hier à la télévision, je ne sais plus sur quelle chaîne, sur des casques de réalité virtuelle où on passe des scènes dont on est l'acteur ou l'actrice, en l'occurrence, et qui permettent justement à des jeunes adultes de s'apercevoir de ce qu'il en est. Vous avez passé, je crois, au planning familial, un accord avec Netflix à propos de la série Sex Education. En tout cas, c'est ce que j'avais vu. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a d'autres moyens justement pour pouvoir rendre visibles les différentes façons de vivre sa sexualité, comme c'est le cas dans Sex Education, que simplement l'apprentissage avec ses pairs, comme vous disiez tout à l'heure, l'apprentissage à l'école, etc. Marie Maranzana.
Alors oui, effectivement, nous on est persuadés que l'éducation à la sexualité c'est un levier absolument nécessaire pour lutter contre les stéréotypes de genre, mais ce n'est pas le seul. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'espace à investir et des informations à diffuser et des représentations alternatives à montrer sur des espaces très différents. Donc on a effectivement la question du champ médiatique, culturel, avec des séries, des films, des livres qui sont très intéressants pour ça. Et puis là, évidemment, les réseaux sociaux où on sait qu'il y a énormément de désinformations, comme on a pu le dire, et c'est très important que l'on puisse diffuser des informations scientifiques, objectives et correctes sur tous ces sujets de sexualité et de vie affective sur nos réseaux sociaux, c'est ce qu'on fait. Et je voulais juste revenir rapidement aussi sur la question du rôle des associations en fait dans les séances d'éducation à la sexualité, dans la mesure où en fait, on ouvre un espace de débat où les élèves vont pouvoir sentir peut-être plus de liberté pour s'exprimer qu'ils ne peuvent sentir dans la famille ou dans les cours. Et c'est pour ça que c'est très important qu'en fait, au niveau du portage national et de la gouvernance qu'on peut mettre en place, qu'on puisse avoir les associations avec les personnels de l'éducation nationale, les infirmiers et infirmières qui puissent travailler ensemble, notamment aussi, parce qu'on parlait des infirmières et infirmiers tout à l'heure, c'est leur rôle est très important aussi pour servir de relais une fois que les séances sont passées et qu'il y a des choses qui ont pu être remuées chez les élèves, parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'éducation à la sexualité, c'est extrêmement important pour détecter les violences. Et dans ce cas-là, il va falloir des lieux ressources, des personnes ressources pour accueillir les élèves, leur parole à l'issue de ces séances.
Sophie Béjean.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on travaille beaucoup avec différentes associations. L'ouverture, finalement, de l'école à des partenaires et partenaires associatifs, ça nous fait progresser. Et puis, c'est
d'autres. Et on sait que des parents d'élèves voudraient qu'elle se referme. Et dire ça n'est pas l'endroit.
Alors, se refermer pour la sécurité, on peut le comprendre. Ouais. Et nous le faisons aussi, hein, bien sûr. Mais s'ouvrir pour travailler avec d'autres acteurs, ça offre d'autres occasions aux élèves de s'exprimer, d'avoir des informations. Et à chaque fois, mais vous l'avez dit très bien Marie, il faut que ça s'inscrive dans quelque chose qui est porté pédagogiquement et sur le plan éducatif au sein de l'école ou au sein de l'établissement. Parce que la présence une heure, un jour, ne peut pas être suffisante, d'une part. Et d'autre part, il y a l'avant qu'il faut préparer, l'amont. Et puis, en aval, accompagner les élèves, être encore à l'écoute, leur proposer des espaces d'échange. Et c'est le cas, alors dans les instances de vie collégienne, lycéenne, c'est le cas aussi dans ce qu'on appelle les conseils d'éducation à la citoyenneté, à la santé dans les établissements scolaires, qui permettent de développer ces projets éducatifs.
Yael Amsalem Mingui.
Oui, un des points qui me semble vraiment important dans ces enjeux-là, c'est quand même à la fois de se rappeler que l'éducation à la sexualité, elle a son rôle, mais elle n'a pas un rôle unique. Enfin voilà, l'école n'est
pas. On a bien compris qu'il y avait la question aussi des stéréotypes sur les métiers, etc.
Voilà. Les jeunes ne sont pas que élèves, et donc ça va transporter aussi les jeunes dans l'ensemble des sphères dans lesquelles ils vont pouvoir être, à la fois le sport, le loisir. Et donc, on va voir aussi les effets des normes et des productions normatives. Et puis, l'autre élément qui est très important, c'est, malgré tout, on pâtit d'une histoire sur l'ABC de l'égalité qui a
2013, rappelons-le.
2013, c'est l'année d'après, où clairement, on a vu des mouvements de retrait de l'école et tout ça, qui ont laissé croire, et qui ont largement laissé croire, que l'éducation à la sexualité était, des séances d'apprentissage à la masturbation. Ce qui clairement, quand on prend.
Et qui ont laissé croire aussi à des parents d'élèves ou des associations extérieures à l'école qu'elles pouvaient agir et même faire retirer justement cette question d'ABC de l'égalité.
De l'égalité. Et en fait, ce qu'on voit depuis la circulaire Fontanet, donc 1973, et depuis, toute l'histoire et comment ça s'est monté, il n'y a jamais eu du tout, et quand on a beau prendre tous les textes, qu'on regarde les recherches qui ont pu être menées, d'initiation de quelque manière qu'elle soit sur des pratiques sexuelles. Et c'est davantage l'apprentissage à la fois du corps et du fonctionnement du corps, la dimension biologique et la dimension relationnelle. Et puis là, on arrive à dépasser le cadre vraiment très conjugal. Avant, c'était vraiment le côté épanouissement conjugal, apprentissage couple. Et maintenant, on est sur la dimension relationnelle, affective, sentimentale, amoureuse.
Et vous le disiez bien tout à l'heure, il y a l'MCL Mingui, on va terminer là-dessus. Sophie Béjean, ça n'est pas qu'en France d'ailleurs, parce que ces réticences ou ces volontés d'intrusion des parents d'élèves ou des associations extérieures dans l'école, elles existent à ce propos un peu partout en Europe, voire dans le monde.
Oui, et particulièrement sur tout ce qui relève des valeurs, au fond, ou des projets éducatifs, l'éducation au développement durable, par exemple, la transition écologique, ça fait partie aussi de nos objectifs, et nous le faisons avec des partenaires associatifs.
Merci en tous les cas à toutes les trois d'être venues parler de cette question d'égalité femmes-hommes à l'école et du rôle de l'école dans cette égalité, cette progression de l'égalité. Nous étions en compagnie d'Yael Amsalem Mingui, chargée de recherche à l'INJEP, et autrice, entre autres, des jeunes, la sexualité, Internet, de Sophie Béjean, rectrice de l'Académie de Montpellier, et de Marie Maranzana, membre du planning familial, du Bureau confédéral du planning familial et co-référente sur les questions de jeunesse et d'éducation à la sexualité. C'était le temps du débat, préparé ce soir par Roxane Poulin, Mathias Mégy, Fanny Richet, Anouk Sévenot, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda, avec à la technique Valentin Bobinet. Bien entendu, vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur le site de France Culture ou encore sur l'application Radio France.